Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça ou ça change rien? C'est mieux quand même comme ça. Bon, alors, je prends le micro. Merci vraiment beaucoup à tous de votre présence ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir que ce sujet intéresse. Alors moi, je suis pas évêque, pas encore. Je suis même pas prêtre. J'ai pas fait d'études de théologie. Je suis pas bibliste. Je suis pas canoniste. Moi, je suis juste baptisé. C'est déjà pas mal, vous me direz. Et ça suffit. Mais je suis un baptisé un peu spécial puisque je suis concerné par la question de l'homosexualité. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que je suis un chrétien un peu spécial? C'est pas normal de dire ça. Je suis juste chrétien, en fait. Je suis juste chrétien et mon désir à moi, c'est de suivre le Christ. Avec ce que je suis et avec tout ce que je suis. Dans ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est mon expérience à moi. J'ai absolument pas la sagesse et les connaissances que vous avez pu nous donner, ces connaissances théologiques, ce que l'Église a pensé depuis 2000 ans sur les questions de morale. On sait que la question de la morale sexuelle, elle est venue relativement tard dans l'histoire de l'Église. Et encore plus sur la question de l'homosexualité. Donc, je ne fais que dire ce que je suis. Je ne prétends pas du tout à la vérité. Moi, j'ai 40 ans. Je suis marié avec un homme. Je suis en couple depuis 11 ans et marié depuis 3 ans. J'ai grandi dans une famille catholique, bien comme il faut. Ah oui, une petite chose quand même avant d'aller un peu plus loin. Vous dire que je ne suis concerné que par l'homosexualité. Je sais que nos frères et sœurs qui sont concernés par la transidentité, par exemple, peuvent aussi avoir des questions. Malheureusement, voilà, j'en suis désolé s'il y en a qui sont concernés par cette question-là aujourd'hui, mais j'y connais pas grand-chose. Et donc, je peux que les associer sur la question de la place dans l'Église. C'est-à-dire qu'il y a une vraie identité de cause, mais ce n'est pas la même réalité du tout entre la transidentité et l'homosexualité. Et de même, je vais faire un effort d'inclusion et de dire il et elle. Mais parfois, j'ai tendance à oublier quand je m'emporte, et je m'emporte assez facilement quand je parle. Alors parfois, je dis que il. J'en suis vraiment désolé pour vous, mesdames, mais ne le voyez pas du tout comme un affront. Je vous porte bien sûr dans mon discours. Voilà. Donc moi, j'ai grandi dans une famille bien comme il faut. Vraiment. J'ai 7 frères et sœurs. Famille catho, pratiquante. Je suis le sixième. Des frères et sœurs mariés qui ont des enfants. Tout se passe bien, c'est beau, famille unie. Et puis voilà, moi j'arrive et vers 12 ans, je me dis, il y a quelque chose qui coince quand même. Il y a quelque chose qui coince, je sens bien que je ne suis pas comme tout le monde. Et comme je suis dans une famille très croyante, très pratiquante, qu'on ne parle pas d'homosexualité. Dans la famille, on ne parle pas trop de sexualité d'une manière générale, mais on parle encore moins d'homosexualité. Et quand on en parle, on en parle très peu et surtout très mal. Et puis, ouais, 10-12 ans, quand on commence à voir ou à ressentir des choses, à voir où notre regard se porte, et que je voyais qu'il ne se portait pas sur les filles, je me suis posé la question par rapport à ma foi très rapidement. Et puis, je suis allé voir le catéchisme de l'Église catholique. Alors, Monseigneur, vous avez parlé du catéchisme, vous en avez donné quelques éléments, et notamment sur le caractère désordonné. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre le caractère désordonné. Il a fallu que je sois à devenir un Christ pour le comprendre. Mais donc, j'avais 12 ans et je suis allé dans la bibliothèque interdite, dans la chambre de mes parents, là où il y avait tous les bouquins chiants. Et je suis allé voir le catéchisme de l'Église catholique. Je me suis dit, mais qu'en pense? Et dans mon regard de 10 ans, C'est pas qu'en pense l'Église institution, c'est qu'en pense Dieu de tout ça. Et moi, c'était ma seule référence. Qu'en pense Dieu? Alors, je suis allé récupérer le texte parce que il y a le caractère désordonné, mais quand même, il n'y a pas que ça. Alors, je ne lis pas tout, hein. S'appuyant sur la Sainte Écriture qui les présente comme des dépravations graves. La tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, contraires à la loi naturelle. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir approbation en aucun cas. Voilà, après il y a tout un paragraphe sur les preuves et qu'en fait on est condamné à vivre dans l'épreuve et qu'il faut unir ses souffrances au Christ et puis supporter cette croix. Je me suis dit, bon, voilà, je n'avais pas prévu de mourir tout de suite, donc il me restait quelques années à vivre avec ça. Et je me suis dit, ben voilà, Dieu ne m'aime pas. Il ne peut pas m'aimer avec mes sentiments. Alors, je ne m'étais pas dit que j'étais homosexuel à l'époque, hein, il a fallu quand même beaucoup plus d'années. Mais cette façon de présenter les choses, elles m'ont bouleversé. Et elles ont, ça a mis une espèce de chape sur moi. Et je me suis dit, bah, si c'est comme ça, surtout, 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 personne ne sera au courant. Et puis je vais vivre ma vie normale. Et je ne suis pas du tout homosexuel. Et je vais me marier. Et je vais atteindre cet objectif idéal qui était la fondation d'un foyer chrétien. Parce que de toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a que l'altérité qui compte. Il n'y a que la différence homme-femme. Il n'y a que la famille, la procréation. Et c'est le seul horizon qui est possible. Parce que c'est ça qui m'a été dit. Et c'était ça que j'entendais. Les années passent. Je vous épargne les détails. Pour vous dire qu'à un moment où la chape commençait à se fissurer, je me suis dit, il va falloir que je choisisse. Je ne peux plus rester dans cet entre-deux. Je suis obligé de choisir entre ma foi et mon homosexualité. Obligé. Donc, si j'accepte d'être homo, je ne suis plus catho. Si j'accepte d'être catho, je ne peux pas être homo. Et naît un clivage. Si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour que vous puissiez vous apitoyer avec moi sur mon sort. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, je vais très bien et je suis très heureux d'être homo. Si je vous dis tout ça, c'est parce que cette expérience-là, elle est vécue par un nombre incroyablement important de personnes homosexuelles. Ce clivage qui est extrêmement délétère, puisqu'il entraîne une dissociation entre la vie de foi, la vie extérieure, et puis les pulsions de la personne, et qui peut conduire des personnes à du coup, avoir une sexualité qui est complètement débridée. Et qui leur fait du mal. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. J'ai été assez relativement préservé, tout simplement parce que je suis un grand timide et que j'osais pas, du coup, du tout vivre cette orientation sexuelle, mais ça me consumait de l'intérieur. Ça me consumait. Et je me suis mis à prier. Vraiment très fort, en disant, mais Seigneur, mais délivre-moi de mon homosexualité, délivre-moi de ce péché, délivre-moi de cette dépravation grave, comme dit le catéchisme. Et je sentais que ça m'éloignait. Alors non seulement ça m'éloignait, mais en plus j'étais un petit con, franchement. Je suis toujours un peu, mais là vraiment, vraiment, j'étais intolérant envers les autres, hautain, méprisant. D'une rigueur morale, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, et surtout très homophobe. Parce que comment faire pour masquer que j'étais homo, sinon être ultra homophobe? Et puis, me rattachant quand même à ma vie de prière et puis à l'évangile, je voyais bien ce regard du Christ sur moi. Je voyais bien qu'il me disait, n'abandonne pas, moi je t'aime. Et j'ai toujours eu cette confiance dans le Christ qui ne m'abandonnerait pas. Et je voyais cette parole de l'évangile qui m'a très longtemps, je crois que c'est chez Luc, je crois que c'est le chapitre 11, je ne suis pas certain, qui dit, qui est cet homme qui demande à son père du pain et qui lui donnera un serpent? Et demandez, on vous exaucera, etc. Et puis, donc, je méditais cette parole, et je la lisais souvent, et je disais à Dieu, mais bon sang, quoi, mais je demande à pu être homosexuel, et toi, tu ne m'exauces pas. C'est quoi cette parole? C'est quoi cette connerie? C'est quoi cette connerie? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, un jour, je priais pour guérir, pour guérir, pour guérir. Et devinez quoi? Ben, Dieu m'a exaucé. Dieu m'a guéri. Parce que Dieu guérit. Dieu libère. Alors, comme Dieu est infiniment plus grand que moi et que ma façon de penser, il m'a pas guéri de mon homosexualité. Dieu merci. Heureusement, heureusement. Non, il est allé au plus profond de mon désir et il m'a guéri de ma peur. Profondément. Et à partir du moment où j'ai été guéri de ma peur, j'ai pu commencer un chemin de foi. J'ai pu me rapprocher du Christ. J'ai pu à nouveau m'approcher des sacrements en conscience. Ne plus consommer les sacrements, mais faire un travail sur moi-même pour essayer de voir où le Christ voulait me mener. Et alors, c'est à peu près à ce moment-là que je me suis documenté sur la question de l'homosexualité. C'est là, à ce moment-là aussi, j'ai pu faire mon coming out, rencontrer mon mec, et ça fait du bien, et puis construire une vie avec lui. Et ma vie, enfin, je suis désolé d'être un peu cru, mais ma vie, elle ne se résume pas à ma vie sexuelle avec mon mec. C'est bien, hein, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, c'est bien. Mais c'est un tout petit, petit, petit point de ma vie. Ma relation que j'ai avec mon mari aujourd'hui, on est tous les deux croyants. Alors lui n'était pas croyant au départ, mais on s'est rencontrés et il a redécouvert sa foi à cette occasion-là. Et on va à la messe, et on est engagé, et on fait des choses. Et la relation qu'on a, elle dépasse de très loin la seule question de la sexualité ou de la génitalité. Mais ça n'a rien à voir. Alors j'ai voulu m'engager à devenir un en Christ pour aider mes frères et sœurs concernés par l'homosexualité à déjà à s'accepter, parce que c'est important, à aimer l'Église. Parce que moi, cette épreuve, et ça a été une épreuve, hein, c'était une croix. Mais c'est pas l'homosexualité qui était une croix. C'est pas l'homosexualité qui est une souffrance pour moi. On dit dans les catéchismes de l'Église catholique, les personnes homosexuelles le vivent mal et c'est difficile. Mais c'est pas l'homosexualité en tant que telle. C'est le regard des autres, c'est le regard de l'Église. Alors, quand on m'a. Donc, je suis rentré à devenir un en Christ, et puis après, j'ai gravi les échelons, comme on dit. J'étais membre du conseil d'administration, ensuite vice-président, et puis maintenant président de l'association. Mon but, et le but de l'association, c'est cette réconciliation. C'est d'abord cette réconciliation interne, c'est devenir un. C'est arrêter de se dissocier, arrêter d'avoir sa bonne petite vie de catho d'un côté, et puis sa vie d'homo de l'autre. C'est se réunifier dans le Christ. C'est de comprendre que le Christ nous aime tel qu'on est, tel qu'on vit, et avec toutes les facettes de notre personnalité. Alors oui, Dieu n'aime pas le péché, ça c'est sûr. Mais le péché, c'est pas ma relation avec mon compagnon, ma compagne. C'est tout ce que je fais de mal dans cette relation. Et je ne suis pas toujours sympa avec mon mari. Et lui, pas toujours sympa avec moi. Mais il est là, mon péché. Il est quand je manque d'amour vis-à-vis de lui. Il est quand je manque d'amour vis-à-vis des uns et des autres. Il est de mon manque d'amour envers l'Église. Et alors c'est ça que j'essaye de faire au sein de l'association, c'est dire à la fois aux personnes homosexuelles, vous êtes toutes aimées de Dieu et infiniment, et quelle que soit votre orientation, quelle que soit manière de vivre, que vous soyez en couple ou pas en couple, le tout, c'est vous essayer de vous rapprocher de lui, c'est de vous unifier. La deuxième chose, et qui est importante, parce que aujourd'hui, moi, je me suis réunifié, aujourd'hui, je suis plus catho ou homo, aujourd'hui, je suis catomo. Aujourd'hui, je suis les deux profondément. Et ce que je voudrais dire, vous dire aujourd'hui, c'est que on doit aimer l'Église. Et ce que je cherche à faire, c'est que l'Église catholique puisse aimer les homos, aimer les trans. Je sais que ce n'est pas facile en ce moment avec le dernier texte sur la dignité, Dignitas Infinitas, où il y a des paroles qui sont un peu dures sur les personnes trans. Mais leur dire à ces personnes-là, mais un, vous êtes aimé de Dieu, deux, l'Église vous aime. Et je veux dire aussi à l'Église, aimez-nous. Ne nous voyez pas qu'à travers le prisme de notre sexualité, de notre génitalité, quelle qu'elle soit, même des personnes qui ont une vie de patachon. Hein. Peu importe, c'est pas ça l'Église. C'est pas, pour moi, ce n'est pas un club où tout le monde serait pur et on n'accepte que les purs. Non, c'est un lieu, c'est catholique, c'est universel. On est tous pécheurs. On est tous amenés à faire partie de cette Église. Alors quand j'ai vu le thème de cette conférence, Benoît m'en a parlé, j'ai vu Cato et Homo, parlons-en. Bah, je lui ai dit, ben, pourquoi? Pourquoi est-ce que je devrais parler de mon orientation sexuelle et de ce que je fais sous la couette? C'est quoi le rapport? C'est quoi cette idée de vouloir me réduire à mon orientation sexuelle? Et puis en fait, c'est hyper, hyper intéressant comme thème. Parce que oui, parlons-en dans l'Église. Parlons-en. Parlons des homos, parlons des trans, parlons des divorcés remariés, parlons des couples hétéros qui vivent en couple sans être mariés, parlons des femmes qui ont recours à l'avortement, parlons de tous ces sujets-là. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est bien, que tout est bon. L'Église profondément a le droit et même le devoir de dire ce qu'elle pense être le vrai, le juste, le bien. Pourquoi? Parce que elle était instituée par le Christ et que elle doit porter un message. L'Église ne peut pas se taire. C'est pas du tout la question. Mais de se replacer dans une perspective d'accueillir inconditionnellement toute personne qui vient à elle, sans lui balancer le catéchisme à la tête. Moi, je voudrais aussi un peu parler aujourd'hui. Ouf, pas très longtemps. Ouais, pas très longtemps, parce qu'après, il faut quand même laisser de la place aux questions. Mais je voudrais vous parler de Laurent. Laurent, qui était non-croyant, plutôt athée, en couple homosexuel depuis une dizaine d'années, paxé, qui découvre le Christ dans un couvent. Un monastère du Tarn, et qui tombe amoureux du Christ. Voilà. Et qui demande le baptême. Et Laurent, à qui on refuse le baptême parce qu'il est en couple homosexuel. On lui dit, tu dois choisir. Moi, je veux bien baptiser, mais tu peux plus rester en couple. Laurent a fait le choix, et c'était infiniment courageux à lui, de quitter son compagnon au bout de plusieurs années. Je crois que c'était 8 ans, il me semble qu'ils étaient ensemble. Pour pouvoir être baptisé. Mais je connais aussi Benoît, qui est acquis, pas le Benoît là, un autre, à qui c'est arrivé également, à qui on a refusé le baptême, et qui depuis s'est éloigné de l'Église catholique. Il n'est pas resté. Je voudrais vous parler de Cécile. Cécile qui, avec sa belle voix, faisait chanter pendant des années à la messe. Et puis le jour où elle a dit qu'elle est. Non, elle l'a même pas dit. Un tiers a dit au curé qu'elle était homosexuelle. Interdiction de monter à l'autel. Interdiction de faire chanter. Je voudrais vous parler de Louis, qui a fait le cathé pendant 30 ans, et qui du jour au lendemain, on lui a dit, tu peux plus faire le cathé parce que tu es homosexuel. Je voudrais vous parler également de Robert, athée, convaincu, qui, avec son compagnon de l'époque, Alexandre, vont dans une communauté charismatique pour, Dixit, les détruire de l'intérieur, et qui se trouvent transformés par le Christ, et qui se convertissent, et qui essaye de rentrer dans cette communauté, enfin, de participer, et le prêtre qui refuse de leur donner le sacrement de l'absolution, en disant, je ne peux pas te pardonner tes péchés. C'est des personnes qui peuvent rester dans l'Église malgré ces souffrances-là, mais combien d'autres partent de l'Église? Et je trouve ça tellement triste que on puisse, et je jette pas la pierre sur les clercs qui ont pu les blesser, les clercs ou les paroissiens d'ailleurs, parce que il y a un problème de compréhension, de culture, de tradition familiale, de plein de choses. Donc je leur jette pas du tout la pierre à ces prêtres-là qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils sont. Donc vraiment pas. Mais une relation naissante entre le Christ et son bien-aimé est coupée parce qu'on n'est pas capable d'accueillir la personne telle qu'elle est. Et ça, je trouve ça vraiment une tristesse. Alors, ma présence aujourd'hui, ce soir, et promis, j'arrête, c'est pour vous demander à vous tous, je ne sais pas, je ne connais pas vos responsabilités ici, je ne sais pas si vous êtes croyant, si vous êtes pratiquant, si vous avez des responsabilités ecclésiales, mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est homosexuel, on n'a pas besoin de se voir rappeler sans cesse et en premier lieu les textes bibliques ou le catéchisme de l'Église catholique. On finit par le savoir. On finit par comprendre et le savoir. S'il vous plaît, quand vous voyez une personne homosexuelle ou transsexuelle ou divorcée remariée ou qui vit en concubinage, accueillez-les comme un frère, comme une sœur, en lui tendant la main, pour qu'il se sente bienvenu dans l'Église. Et à partir du moment où il aura la relation avec le Christ, cette relation existera, c'est lui qui fera son propre chemin avec le Christ. C'est pas vous qui allez lui dire, bah, tu sais, l'homosexualité, c'est quelque chose de très très mal, t'iras en enfer. Et la personne, oh là là, bah, oui, bah, merci de me l'avoir dit, franchement, merci de m'avoir évité les flammes de l'enfer. Non. Vous avez des personnes qui vont rencontrer le Christ et qui vont cheminer. Et quand on voit dans les évangiles la façon dont le Christ touche les personnes, c'est parce que la personne est touchée en premier lieu que la personne va évoluer. On le voit très bien avec Zachée, on voit avec la Samaritaine. C'est d'abord la rencontre avec le Christ. Elle est là, d'abord, en premier lieu. Et ensuite, il y a une évolution. Moi, je connais des personnes qui étaient en couple homosexuel, qui ont rencontré le Christ, qui ont fait un chemin intérieur et qui ont décidé que pour elles, la chasteté continente était la façon la plus belle de vivre leur vie. Et à devenir en Christ, on aide ces personnes-là à vivre ce qu'elles veulent vraiment, leur désir profond. Parce que ça peut être une très belle voie. Mais voilà, le catéchisme dit encore, ne peut être admise dans aucun cas. Aucun cas. Ça laisse pas beaucoup de perspectives, aucun cas. Ça veut dire, même si j'aime mon conjoint, moi ça fait 11 ans que je suis avec, pour certains d'entre vous ça fait pas beaucoup, mais pour moi ça fait beaucoup. Ça fait 11 ans que je suis avec la même personne, j'essaye de l'aimer, d'avoir une relation chaste avec elle, ça veut dire pas dévorante, hein, de le respecter en tant que personne, d'avoir une fidélité, d'avoir un amour, d'être fécond. Alors, pas une fécondité biologique, mais une fécondité qui est énorme et qui dépasse, mais largement la fécondité biologique. Et on me dit non, dans aucun cas. Aucun cas. Ça peut être admis. Bah, je trouve ça un petit peu dur. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire ce que l'Église doit faire. Et à devenir un Christ, on n'est pas là pour dire ce que l'Église doit faire. Nous, on est des baptisés, on a notre petite voix au milieu des 1 milliard 500 millions de croyants, donc c'est pas énorme. On est à peu près 300 membres de l'association, donc on est 300 sur 1 million et quelques, mais ça fait pas tellement plus. On n'est pas là pour dire ce que l'Église doit penser. On est personne pour dire ça. On peut pas se mettre à sa place. On peut juste appeler l'Église à nous considérer en tant que personne, en tant que croyants et nous inclure parmi elles, parce que fondamentalement, si on recherche le Christ, si on fait partie de cette association, c'est bien qu'on a envie d'aller vers lui, c'est bien qu'on a envie de cheminer avec lui, c'est bien qu'on a envie d'être avec l'Église et qu'on aime cette Église. Alors voilà, j'ai beaucoup, beaucoup trop parlé, donc je vais m'arrêter là. Mais pour vous remercier encore une fois d'être présent et de vous dire que pour moi, j'ai longtemps prié pour ne pas être homosexuel. Et puis aujourd'hui, si je devais avoir une apparition de la Vierge Marie, pourquoi pas, et qui devait me dire, ben voilà, je t'exauce ton souhait, est-ce que tu veux être hétérosexuel? Ben, je lui dirais, ben non. Ah non. Non, 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 ça m'a tellement apporté. C'est la plus belle chose que Dieu ait pu me donner, c'est cette homosexualité. Elle m'a donné énormément de qualités, énormément d'attention, énormément de choses. Et vraiment, je crois que c'était le plus beau cadeau que Dieu a pu me faire. Je vous remercie.